Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, le Canu Info du lundi 15 septembre 2014 avec Jean-Pierre Michel dans les studios et Robert en duplex. On va donc évoquer l'actualité internationale qui ce soir a des petits côtés d'actualité nationale puisqu'il y avait cette grande conférence internationale sur l'Irak à Paris, dont il est important de parler, et du même coup de parler de tout ce qui se passe en Irak et dans ce Moyen-Orient, parce qu'il y a beaucoup à dire. Hollande, sans doute, avec un peu l'idée de reprendre la main sur les Américains, cela suffira-t-il, c'est pas sûr, a convoqué et reçu, du moins, avec quand même, oui, l'aide de Kerry, qui a fait le tour des monarchies du Golfe pour ramener des volontaires, a réuni 20 pays pour discuter. On parle d'une conférence de paix, mais en fait, c'est surtout une conférence de guerre pour essayer d'obtenir que tout le monde contribue à ce que on cherche à réduire l'armée, l'état de l'armée islamique en Iran. Le bilan à l'heure qu'il est n'est peut-être pas aussi positif que on a pu se confronter des points de vue et définir des positions que pris des engagements communs, comme on pouvait un peu s'y attendre. Les divergences sont telles que c'est bien difficile d'arriver à un consensus, sans compter qu'on y reviendra, mais tout le monde n'était pas là et ne pouvait pas être là. Les Iraniens, évidemment, n'ont pas voulu participer.
Pas voulu, si, ils auraient voulu participer, mais les États-Unis et l'Arabie Saoudite n'en voulaient pas. C'est dire, effectivement, à entendre la diplomatie française, la puissance de conviction de la France, qui se voit dicter finalement cette conférence par le département d'État américain, qui estime qui est bon, qui n'est pas bon à participer à cette conférence. Donc, outre l'Iran, qui on connaît hein, son influence dans la région, et notamment en Irak, hein, puisque le gouvernement actuel est majoritairement chiite et que les Iraniens sont plus qu'influents donc, sur Bagdad, c'est aussi la Syrie de Bachar al-Assad, qui a été mis à l'index donc, par cette coalition de volontaires pour combattre l'État islamique. Et c'est surtout son absence qui va faire débat aussi, c'est-à-dire donc la conférence, elle a ce nom pompeux de conférence internationale sur la paix et la sécurité en Irak, mais de fait on sait bien donc avant tout c'est comment s'attaquer à ce qu'on appelle l'État islamique, et cet État islamique aujourd'hui il recouvre deux pays hein, à savoir 25% du territoire syrien et environ 30% du territoire irakien. Donc là on sait très bien si on commence les bombardements sur les positions de l'État islamique en Irak, ceux-ci vont se replier sur leur base en Syrie et on ne pourra pas donc les laisser à l'abri. Donc le combat sera mené, les opérations militaires, les frappes, comme on dit, seront menées sur la Syrie sans l'aval donc, de ce pays et sans résolution des Nations Unies aussi. Donc on voit bien un peu le danger potentiel. Si jamais on arrive à se défaire de l'État islamique, mais il ne faut pas en douter, hein, on a tendance à monter aussi un point d'épingle, là, la capacité militaire de cette entité, il va y avoir un vide qui va vite être occupé ou bien par l'armée syrienne officielle de Bachar al-Assad ou bien par l'armée syrienne libre, à savoir cette fameuse résistance au gouvernement de Bachar al-Assad qu'ont mis en place les Occidentaux. Mais on voit avec quel résultat, parce qu'au départ, c'est ces gens-là qu'on a armés et les armes qu'on leur a données se sont retrouvées auprès d'Al-Nusra et puis auprès d'Al-Qaïda, enfin, et de ce qu'on appelle aujourd'hui l'État islamique. Donc on voit bien un peu la difficulté hein, de l'opération. Donc comment en prenant uniquement pour option des bombardements sur les positions, sans envoyer officiellement hein, des troupes au sol, comment arriver à réduire donc cette menace hein, pour l'Occident que représente l'État islamique ?
Oui, réduire les tâches, ils ne sont pas sûrs. Ce qu'ils voudraient déjà bloquer, c'est leur avancée, quoi. Parce qu'ils n'arriveront pas facilement, comme ils vont se replier sur des villes, des zones où ils sont bien implantés depuis un certain nombre d'années. Finalement, ce mouvement, ça n'a pas commencé il y a 3 mois, quoi.
Non, c'est d'un tout. C'est-à-dire, ce mouvement a commencé, faut dire les choses comme elles sont, ce mouvement a commencé sur la décomposition de deux États, l'État irakien et l'État syrien aujourd'hui. S'il y avait eu encore des États, il n'y aurait pas eu d'État islamique, il n'y aurait pas eu de volonté de fonder un califat. Aujourd'hui, le problème, et on omet de le mettre en avant, c'est que les principaux responsables pour la déconfiture dans ces deux pays-là sont les Occidentaux et les États-Unis. C'est eux qui ont durablement affaibli la structure de l'État irakien, hein, 10 ans d'occupation, où on s'est évertué donc à saper les fondements même de ce que peut constituer l'État. Et on s'étonne aujourd'hui, effectivement, de la polarisation en Irak, selon qu'on soit chiite, kurde ou sunnite. Et les sunnites qui ont eu tout à perdre, hein, parce que c'est eux qui avaient la main encore... historiquement et jusqu'à Saddam Hussein, et c'est eux aujourd'hui qui se retrouvent finalement les grands dindons de la farce. Donc le fait que c'est sur ce terreau sunnite qu'est pu prospérer l'État islamique, voilà, c'est pas un hasard. Et le fait qu'il ait franchi la frontière et qu'il ait pu être aussi opérant en Syrie, c'est aussi parce qu'on a totalement, dans cette affaire syrienne, ostracisé le gouvernement de Bachar al-Assad, et on a été contre toute résolution politique. On a voulu opter donc par le renversement de régime qui correspondait finalement à l'agenda occidental aussi dans cette histoire-là. Mais on s'y est trompé. La plupart des gens, là aussi, ne l'oublions pas, beaucoup aujourd'hui de lieutenants, hein, de ce qu'on appelle l'État islamique, hein, ont été formés par les États-Unis, par des militaires américains dans les camps militaires jordaniens dans le nord du pays, et envoyés pour combattre Bachar al-Assad, en pensant effectivement que c'était ce qui allait le fer de lance au nom de l'islam, qui allait pouvoir renverser ce régime-là, souder tous les sunnites syriens. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire l'armée syrienne libre s'est effondrée, les armes qu'on lui a données sont parties à des groupuscules dits extrémistes, et aujourd'hui on se retrouve avec ce problème, et ce problème qui a su conglomérer tout le fanatisme salafiste dans le monde musulman dans sa globalité, hein.
Mais quand on dit aujourd'hui qu'on va soutenir l'armée syrienne libre pour contenir ce mouvement-là, on a quand même beaucoup de mal à y croire, quoi.
Bien sûr, c'est un vœu pieux. Sur quelle base? On a vu effectivement l'incapacité à structurer cette armée qui existe uniquement sur le nom, sur le papier, hein, parce que de fait, sur le terrain, elle n'a jamais, d'un point de vue opérationnel, elle n'a jamais été effective, quoi. Donc on voit bien là aussi, on nous vend quelque part. Toute cette histoire-là, quelque part, n'est pas très claire. À savoir, on s'étonne de l'émergence de l'État islamique. L'État islamique, c'est pas seulement des hommes, c'est aussi des moyens. Et c'est pas seulement les moyens parce que le fruit de rapines ou de contrôle de puits de pétrole. C'est aussi parce que les États du Golfe, à commencer par l'Arabie Saoudite et des institutions peut-être, mais surtout de grandes fortunes, ont financé donc cet État islamique. Et tout le monde le sait. Hein, au Quai d'Orsay, on le sait. Au département d'État américain, on le sait. Et on fait comme si de rien n'était. Donc si aujourd'hui, John Kerry fait le tour des popotes dans les États du Golfe, c'est pas tant pour demander à ces pays-là de prêter main forte. Non, c'est de les faire payer. En leur disant, en gros, hein, ce discours de vérité, au coco. On sait qui a financé finalement l'émergence de l'État islamique. On sait que vous y êtes. Maintenant, vous allez payer pour qu'on leur frappe dessus. Donc là aussi, hein, c'est comme la première guerre du Golfe, qui a été une guerre qui n'a absolument rien coûté à l'État américain. On s'apprête à lancer une opération de longue durée et à le faire payer donc par le Koweït, les Émirats arabes unis, Qatar et surtout l'Arabie saoudite.
L'Arabie saoudite qui traîne un peu des pieds hein, dans le cortège de ceux qui ont bien voulu participer à la conférence et aller dans le sens...
Bien entendu, pour des raisons géopolitiques, c'est-à-dire, on joue des deux côtés, mais on ne veut surtout pas une déconfiture du monde sunnite en Irak. Parce que quelle est l'alternative donc, pour les sunnites si on brise durablement l'État islamique ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, l'État islamique, c'est pas uniquement des fous furieux, des fanatiques au nom d'islam. C'est aussi tous les déçus irakiens sunnites et par le gouvernement de Maliki et par la politique américaine à leur endroit. Donc, comment ne pas laisser le champ libre aux chiites ? Donc, les Saoudiens ne veulent pas d'aucune manière donc jouer contre leur intérêt. Eux qui sont effectivement les propagateurs de ce sunnisme wahhabite sur toute la région.
Et que penser de tous ces, on y reviendra dans la rubrique nationale, mais de tous ces jeunes Français, Européens, Américains même, qui voient là une aventure? Enfin, est-ce que c'est simplement des jeunes comme il y en a dans toutes les générations qui ont un goût, une soif de violence et qui pensent que là, ils vont pouvoir, comme on avait vu certains mercenaires s'engager, enfin, dans toutes les guerres d'ailleurs, je pense à celle de la Serbie avec les... Mais dans d'autres aussi, en Afrique également. Ils sont quand même finalement relativement nombreux. Ils y vont au nom d'un pseudo-engagement idéologique, mais en fait, ils vivent surtout là-bas des aventures extrêmement fortes de violence, quoi.
Oui. De violence, où ils peuvent se livrer à des exactions sans risquer de peine, enfin sur place, ou du moins voilà, mais des fois ils risquent aussi leur tête. Bon, il y a ce phénomène-là, mais bon, comment expliquer aussi qu'une partie de nos jeunes concitoyens d'obédience juive fassent leur service militaire en Israël ? C'est insensé. Voilà, donc il ne faut pas se poser plus de questions que ça. Ça existe, hein, qu'ils soient britanniques, qu'ils soient français, allemands. Autrichiens, donc ils sont musulmans et au nom de ces valeurs-là, donc ils pensent combattre, donc voilà, pour une juste cause. Et peut-être aussi l'opération donc de la France, hein, elle vise aussi à sur place, hein, elle ne dit pas à les éradiquer, c'est-à-dire la crainte maintenant des autorités françaises, c'est que ces jeunes Français reviennent, hein, dans l'Hexagone. Voilà. Mais pour ajouter, la position des Occidentaux dans cette affaire n'est pas très claire, parce que la grande porte d'entrée de nos jeunes musulmans donc européens, c'était la Turquie. Et la Turquie a laissé faire, a aidé, hein, donc l'arrivée de ces jeunes, et leur a ouvert donc les portes pour rentrer en Syrie. Il était tellement facile de leur couper les ponts qu'on peut s'étonner aujourd'hui de cette politique plus que laxiste.
Oui, on nous explique maintenant que les Turcs, de toute façon, ils veulent pas trop s'ingérer dans le conflit parce qu'ils ont 40 otages de Mossoul prêts à être découpés en rondelles. Et que, alors, est-ce que c'est un faux prétexte ou est-ce qu'ils ont vraiment un sursaut humanitaire vis-à-vis de ces 40 otages ?
Il y a beaucoup d'enjeux pour la Turquie, hein, notamment dans l'implication en Irak. Aujourd'hui, s'attaquer à l'État islamique dans le nord de l'Irak, c'est s'attaquer aux sunnites. Si on affaiblit durablement les Arabes sunnites, on renforce les Kurdes sunnites. On voit bien aujourd'hui la position des Kurdes qui sont sourire aux lèvres, voyant effectivement qu'on pense à eux pour leur fournir des armes, pour combattre l'État islamique. Ce qu'on omet de dire, c'est que les yézidis ou les chrétiens irakiens, dans la partie qui incombait donc aux Kurdes, on en prit juste pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait aucune espèce d'intérêt pour les Kurdes de les protéger plus que ça. Il ne faut pas non plus, vous voyez, il ne faut pas se voiler la face, hein, la réalité de l'exode l'exode massif des yézidis et des chrétiens, c'est que les Kurdes n'avaient aucune espèce d'intérêt, parce que le corps même du Kurdistan irakien n'a pas été attaqué par l'État islamique. C'est juste ces régions en marge peuplées de yézidis et de chrétiens. Aujourd'hui, la position des Turcs, ils se disent, mais si on affaiblit durablement les sunnites, on renforce donc l'émergence d'un État kurde, puisqu'on n'en est pas très loin, à nos portes. Donc un piémont kurde, sachant que sur notre territoire, il y a de 14 à 16 millions de Kurdes, selon les chiffres qui sont donnés, et on n'en veut pas. À aucun prix. Donc la position est assez ambiguë. Dans le même temps, on a joué la carte contre Bachar al-Assad, on a favorisé donc la venue d'extrémistes musulmans en espérant le renverser, mais aujourd'hui on voit c'est un jeu très très pervers et très très ambigu que joue Ankara aussi.
Robert, tu voulais intervenir un peu sur le sujet ?
Peut-être revenir deux secondes sur cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui lundi à Paris pour constater que en fait elle est très peu représentative de ce que les médias et même les représentants des différentes diplomaties appellent la communauté internationale, puisque ces 27 pays, ça représente toujours un peu la même coalition que dans les précédentes guerres au Moyen-Orient. C'est-à-dire que ça veut dire que les 4/5 de la planète n'était pas présente à Paris, que ce soit l'Amérique latine, l'Asie et une grande partie de l'Afrique étaient absentes de Paris. Donc toujours, on est toujours dans le même schéma, dans cette explication entre les pays colonisés du Moyen-Orient et les Occidentaux, avec à leur tête les Américains, qui pourtant n'ont jamais été physiquement colonisateurs dans cette région, sinon par les puits de pétrole. Deuxième point, c'est que effectivement ça a été dit, et notamment en France, on peut dire qu'une grande partie de la gauche de gauche, mais ça fait pas beaucoup de monde tout ça, est hostile à cette nouvelle aventure militaire, quel que soit ce qu'on peut penser de la violence de cette prétendue État islamique en cours de constitution. Gauche de gauche qui rappelle que d'une part on est là dans une situation à nouveau comme pour la Libye et puis d'autres moments de temps fort, dans une situation où on bafoue la charte de l'ONU, mais après tout des gens qui bafouent la charte de l'ONU, ils sont nombreux, on peut penser notamment aux Israéliens qui n'appliquent aucune de ces résolutions. Et beaucoup de gens pensent que finalement ça devrait être les pays de la région directement en contact avec cette réalité qui est complexe, cette réalité faite effectivement de peuples. Si en gros ils se réfèrent à l'islam, eh bien ils sont différents entre Arabes, entre Perses et entre Ottomans. Mais ça serait quand même à eux de trouver le moyen de se débarrasser de cette situation, et non pas par le biais de l'intervention traditionnelle des Occidentaux qui à nouveau pratiquent une sorte de néocolonialisme qui n'ose pas donner la vraie version de ce qui se préparerait dans l'avenir pour cette région.
Voilà, on change de sujet, on va parler un peu de l'Ukraine, on va faire aussi profiter du retour de Michel pour faire un point là-dessus. Donc aujourd'hui, la trêve est toujours en place, une trêve à géométrie un petit peu variable, puisqu'il y aurait eu 6 morts encore près de Donetsk par des bombardements dont on ne sait pas s'ils viennent de l'armée régulière ou des autonomistes, quoi. Un convoi humanitaire, du point de vue factuel, a pu arriver à Lugansk aujourd'hui aussi, dans des conditions à peu près régulières. Et puis, il semblerait que derrière les affrontements sur le terrain, il y a toujours la diplomatie en coulisses et que finalement, il y a les pénalités, enfin, qu'on a mis en place avec la Russie, pénalisent tout le monde, aussi bien les Européens que les Russes. Et il y aurait pu y avoir ces derniers jours, semble-t-il, une avancée pour Poutine qui aurait obtenu un report de l'accord de libre-échange qui devait intervenir incessamment entre l'Union européenne et l'Ukraine, un report à fin 2015, quoi. Ce qui, pour lui, est une bonne victoire diplomatique, puisqu'actuellement, l'Ukraine est dans une union douanière avec la Russie et que Poutine souhaite ardemment que cela se poursuive. C'est un des motifs des affrontements qu'il y a actuellement à la frontière russo-ukrainienne. Voilà, peut-être, Michel, ta vision là-dessus.
La vision, c'est qu'en ce moment, donc, officiellement, c'est un cessez-le-feu, bon, qui est plus ou moins respecté, mais qui, étonnamment, vu de Kiev et vu de Moscou, est respecté. C'est-à-dire, c'est vraiment la chose étonnante, c'est-à-dire, on n'est pas dans la surenchère. On estime qu'il y a des échauffourées, mais que le cessez-le-feu est respecté. D'un point de vue militaire, on a vu que les opérations de cet été-là se sont retournées contre les forces régulières ukrainiennes. Et quand j'ai forces régulières, je ne parle pas de l'armée ukrainienne, parce que de fait, les forces qu'on a mis en avant, c'est surtout les milices, les milices Azov, qui sont pour la plupart des Ukrainiens occidentaux de la région de Lvov, qui ont été faire le coup contre leurs concitoyens russophones de Donetsk ou de Lugansk. L'option militaire n'a pas marché. L'Ukraine est un pays endetté. L'État n'a pas les moyens, n'a pas le budget pour entretenir son armée. On organise des collectes aux quatre coins du pays pour acheter qui des gilets pare-balles, qui des rations, etc. aux soldats. Enfin, c'est le monde à l'envers. Juste rappeler ce chiffre-là, l'Ukraine, on estime que le produit intérieur brut, les 10 oligarques, les 10 principaux oligarques comptent pour 80%. Donc il faut aller chercher l'argent là où il est. On s'est rendu compte que les oligarques en question, qu'on nous donnait il y a un an pour pro-russe, aujourd'hui sont tous pro-occidentaux. À commencer par le roi du chocolat qui est président, donc Porochenko, mais aussi Kolomoïski à Dniepropetrovsk, ou Akhmetov, qui était donné de Donetsk, qui était donné proche des Russes, mais qui aujourd'hui est ouvertement contre. Donc on voit bien que le souci premier de la société ukrainienne, c'est que rien n'a changé. La structure de corruption n'a pas changé, celle qu'on imputait systématiquement sur la Russie, de fait, est toujours en place. Les Ukrainiens donc, vont se prononcer d'ici quelques semaines, début octobre, lors des élections législatives. Déjà, le Porochenko et son premier ministre Yatsenyuk qui devaient faire front commun. Donc, le Narodny Front, c'était le nom donc du parti commun qui devait mettre en place. Donc, ça a volé en éclats. Il n'y aura pas de front commun. Chacun ira de son côté. On voit bien qu'il y a d'énormes disparités au sommet même du pouvoir. Yatsenyuk adoptant une position dure vis-à-vis de la Russie jusqu'au boutiste, demande l'intégration à l'OTAN tout de suite. Et Porochenko, le président, qui a signé le cessez-le-feu, donc avec la République populaire de Donetsk, et qui essaye de temporiser et essaye de voir, qui joue de la diplomatie. Donc on voit que les Ukrainiens sont livrés un peu aussi aux influences des uns et des autres. Certains comprennent que on peut pas couper comme ça avec le grand frère russe. Je parle pas seulement au niveau culturel, économique, mais à tous les niveaux, et qu'il en coûtera très très cher à l'économie ukrainienne. Et d'autres veulent effectivement mettre en place une forme de révolution dans le sens on dresse un mur pour nous couper de toute influence russe, et on intègre le plus rapidement possible et le partenariat donc avec l'Union européenne et l'OTAN, qui nous garantirait effectivement un peu de consolider les territoires qu'on a sans que les Russes aillent plus loin. Donc on voit bien un peu le danger de la chose, parce que cette histoire-là, on a parlé déjà depuis maintenant plus d'un an, c'est de la géopolitique pure. Les Russes, d'aucune manière, on parle de Poutine et on a tendance à personnaliser ce conflit à Poutine contre le peuple ukrainien, mais il en va de l'intérêt, si j'ose dire, de la Russie, l'intérêt supérieur de la Russie. Jamais ils ne laisseront donc l'Ukraine être un État, si j'ose dire, hostile à leur porte. Donc on a parlé de finlandisation pour l'Ukraine, on a parlé de systèmes un peu décentralisés, type fédéraliste ou confédération, qui permettraient, avec une neutralité, de figer un peu, d'ailleurs, l'option d'une union avec Moscou et une union avec l'Union européenne n'est pas forcément incompatible. Donc il y a des solutions à ce niveau-là. Mais on voit bien que Washington force un peu ça, en avant dans ce dossier, ses positions, et veut que l'Ukraine donc bascule,
décroche
totalement donc de cette sphère-là. Mais on a vu, les sanctions ne régleront pas l'affaire vis-à-vis de la Russie. La Russie ira jusqu'au bout, cette histoire-là, et donc ça pourra aller que crescendo. C'est-à-dire que la Russie fait comprendre, on a très bien vu que, bien entendu, officiellement, l'armée russe n'est pas présente en Ukraine, mais de fait, elle l'est. C'est téléguidé par Moscou, tout ce qui se passe. Ça n'a pas pu se faire sans l'œil de Moscou. Mais elle fait comprendre que, de manière soft, elle peut déjà être plus qu'une épine dans le pied de Kiev. Et donc, de manière voilée, elle leur dit, écoutez, pour l'instant, les choses se passent relativement bien. Nos soldats, ou les soldats de la République démocratique, démocratique populaire de Donetsk, Lugansk, ne s'attaquent pas foncièrement aux civils, contrairement aux troupes, aux milices ukrainiennes. Ils défendent un territoire, ils ont pour eux une majorité de la population qui les soutient. Ce qu'on aimait aussi de dire, c'est que même les territoires sous contrôle ukrainien, et à commencer par Mariupol, la majorité de la population est enclin donc à soutenir donc les insurgés. Ils leur font comprendre que si les choses devaient s'envenimer, les choses en resteraient pas là. On l'a bien vu, là où le pouvoir ukrainien a cru qu'il pouvait réduire Donetsk, Lugansk, il y a eu cette contre-offensive qui a été une déconfiture pour l'armée ukrainienne. Donc ce qui est à craindre, s'il n'y a pas de résolution politique à l'avenir, c'est que l'option militaire soit de plus en plus pesante et soit de plus en plus affirmée de la part de Moscou.
Ouais. Donc toi, tu penses que le but de Moscou, c'est pas tellement de créer une enclave et de l'assimiler à la Russie avec cette partie Est.
Aucun intérêt. C'est... Le but de Moscou, c'est faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre mode qu'un mode confédéral, donc sous forme de fédéral pour l'Ukraine, qui leur permettrait, par le biais justement de ces régions russophones, de faire en sorte que, puisqu'il faut l'aval de toutes les républiques d'Ukraine, que l'Ukraine n'intègre jamais une sphère militaire qui soit hostile à ses intérêts, à savoir l'OTAN.
Robert ?
Oui, sur ce sujet, non, je n'ai pas de...
Rien de plus à dire, on a pas mal de commentaires. D'autres sujets, parce que l'heure avance, il est moins 25, internationaux, tu avais quelque chose en tête dont tu souhaitais parler ?
Dire deux mots peut-être sur à la fois la reprise de l'activité des différentes structures, comités, qu'elles soient européennes, pour l'essentiel européennes et internationales, pour tenter de faire un barrage au marché qui se noue, et notamment le marché Union européenne-Canada, qui le 25 septembre devrait être conclu. Alors, marché dans la clandestinité, on peut dire, dans la mesure où les peuples et les institutions démocratiques normalement élues n'ont pas eu vraiment droit au chapitre. Et puis, toujours ce grand marché transatlantique avec les USA, qui est toujours en négociation et pour lequel, effectivement, le combat se continue pour y mettre fin. Et petite anecdote, hier à la fête de l'humanité, s'est déclarée hors TAFTA. Alors, on rappellera que TAFTA, c'est le symbole pour rappeler ce grand marché transatlantique qui est en cours de négociation. Et donc, la fête de l'humain s'est déclarée hors TAFTA. C'est que beaucoup de régions, beaucoup de villes en France, et puis maintenant un peu plus en Europe, des conseils généraux se déclarent hors TAFTA, c'est-à-dire refusent par avance d'en appliquer les conséquences. Toujours l'Europe, peut-être je vous laisse parler des élections suèdes, savoir si elles vont faire avancer les désirs de croissance du fait de la victoire des sociaux-démocrates, ou que sont ces sociaux-démocrates? Est-ce qu'ils sont plutôt des austéritaires ou s'ils sont des dépenseurs? On ne sait pas.
Oui, des sociaux-démocrates qui vont devoir s'allier avec un parti qui est proche de l'extrême droite, finalement. Ce qui est relativement nouveau et qui bouscule un peu l'échiquier politique en Suède. Quelque chose là-dessus, non? Michel, non, rien de
pas
spécial.
Pas particulièrement, non.
Bien, ben de la Suède, on peut dire quelques mots de l'Écosse aussi, puisque c'est jeudi que les Écossais vont choisir leur sort.
Alors, la 29e étoile sur le drapeau européen.
Oui, on nous a fait croire à un moment que l'indépendance était acquise. Aujourd'hui, on nous dit que les votes sont retombés à 46% et que il faut dire que Royaume-Uni met une pression énorme et des moyens pour dissuader les électeurs de voter cette indépendance. Une Écosse qui est un peu plus à gauche que la City de Londres, qui est un peu plus pauvre aussi, qui a des richesses pétrolifères et qui pense qu'elle pourrait mener économiquement sa barque toute seule en dehors du Royaume-Uni. Mais bien sûr, d'un autre côté, les financiers qui tirent profit de toute cette région, les financiers de Londres ne veulent pas du tout le voir s'échapper de cette manière-là. Et puis dire aussi que cette idée d'indépendance écossaise, si jamais elle est acquise, ne manque pas de donner des idées aux Catalans. Hein. Ils étaient 1 million à Barcelone samedi pour manifester leur aspiration à une indépendance aussi. Un peu dans le même contexte, des Catalans quelque peu tenus en marge par Madrid, voire méprisés historiquement et même actuellement, et donc qui pensent qu'ils vivraient mieux sans la tutelle de l'État central. Puis il y a les Flamands, puis il y en a sans doute d'autres en Europe qui pensent aussi à leur autonomie.
Je dirais un mot en une phrase pour signaler que Cuba a annoncé aujourd'hui que Cuba allait envoyer plusieurs centaines de médecins et d'infirmiers en Afrique pour lutter contre Ebola, et notamment au Libéria et à Sierra Leone. Et il faut rappeler qu'effectivement, actuellement, il y a 60 000 Cubains, médecins et infirmiers qui sont répartis sur la planète, dont une grande partie est en Amérique du Sud, notamment au Brésil, Venezuela, mais pas seulement, et que c'est, on va dire, une tradition, une bonne tradition des Cubains depuis des décennies de fabriquer des générations de médecins qu'ils envoient un peu partout sur la planète, des médecins et des infirmiers d'une très grande qualité. Ça a été reconnu, y compris dans les instances de l'ONU, qui n'est pas très favorable à Cuba en général.
On va le dire à Obama. On revient un instant sur les velléités d'indépendance européenne avec Michel.
Oui, juste pour Cuba, mon petit dôme me dit qu'il n'y a pas de numerus clausus à Cuba, hein, pour pouvoir envoyer 60 000 médecins à travers le monde. Oui, et juste pour le vote pour oui ou non pour l'indépendance de l'Écosse, ça risque effectivement d'être une forme de... de précédent dans l'Union européenne, hein, je dis l'Union européenne, parce qu'en Europe, on a vu avec la reconnaissance du Kosovo, pour toutes ces régions qui se veulent, qui veulent avoir un peu plus qu'une autonomie. Alors, tu évoquais la Catalogne. Alors, on disait, du moins l'Union européenne, la position de Barroso, de l'Union européenne vis-à-vis de la Catalogne, c'est si jamais, donc, vous allez vers l'indépendance, il va falloir de nouveau faire une demande d'intégration à l'Union européenne. Or, pour l'Écosse, si jamais elle est indépendante, de fait, elle sera le 29e pays sans demande de nouveau de réintégration de l'Union européenne. Ce qui donne des idées aux Catalans en se disant, s'il y a ce précédent-là, donc il est hors de question que nous fassions bananer. Donc là, vendredi prochain, le Parlement catalan s'apprête aussi à officiellement à faire voter donc son référendum qui serait prévu pour le 9 novembre. Donc là aussi le calendrier est très très court. Donc on voit bien un peu les conséquences, hein, on n'y est pas encore, mais si l'Écosse est indépendante, s'il y a l'organisation de ce référendum pour le 9, on voit bien la position, comme tu évoquais, des Flamands, mais aussi de la Vénétie, de la Lombardie, hein, qui veulent se détacher du sud de l'Italie. On voit bien que le Kosovo se frotte les mains en disant que finalement, c'est aussi dans le sens, il y aura de plus en plus de pays qui vont le reconnaître. On voit bien les volontés aussi des minorités hongroises en Roumanie qui s'attaquent de plus en plus à l'entité donc de Bucarest roumaine. On voit bien la minorité hongroise en Slovaquie, on voit bien les Serbes de la République serbe de Bosnie qui ne veulent plus vivre avec leurs concitoyens bosniens musulmans ou croates. Ça pourrait être effectivement une onde de choc dont on n'a pas encore mesuré donc toutes les conséquences.
Merci. Allez, courte pause musicale avec un extrait de Scorpion de Nazim Hikmet, interprété par Lavilly. Et puis, on se retrouve pour la rubrique nationale réduite.
Comme le scorpion, mon frère, tu es comme le scorpion. Dans une nuit d'épouvante, moineau, mon frère, tu es comme le moineau. Dans tes menues inquiétudes, comme la moule, mon frère, tu es comme la moule. Enfermé et tranquille, tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas cinq, tu es des millions. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas cinq. Ta peau. Quand le bourreau lève son bâton, tu te hâtes de rentrer dans le troupeau. Et tu vas à l'abattoir, mon frère, en courant presque fier. Tu es la plus drôle des créatures, en somme, plus drôle que le poisson qui vit dans la mer, sans savoir la mer, sans savoir. C'est grâce à toi, mon frère, si nous sommes affamés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang. Tu es terrible, mon frère.
Le Villier, vedette de la fête de l'Huma, chantait Nazim Hikmet, Scorpion. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 15 septembre 2014, avec un certain nombre de sujets, politiques tout d'abord, entre l'annonce du retour de Sarkozy, ça c'est une calamité, mais on ne s'en débarrasse pas facilement, entre les nantis qui veulent manifester, que ce soit les pilotes d'avion qui se mettent en grève, dénoncé par leurs collègues syndicalistes de base de la CGT et de la CFDT pour maintenir leurs privilèges, et puis tous les nantis qui seront en grève aujourd'hui pour les huissiers, et les autres grèves, enfin le 30 septembre, je crois, l'ensemble des professions libérales. C'est sûr qu'avec des revenus de 20 à 30 000 euros, si on veut gratter dessus, il y a vraiment de quoi protester. On va pas s'éterniser là-dessus, on dira que en politique, il y a un certain nombre d'échéances. Demain, M. Valls va tenter et devrait y arriver à faire voter la confiance par le Parlement, avec un gros forcing auprès de tous les députés pour qu'ils rentrent dans le rang. Et puis, qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus, Robert ?
Oui, que, effectivement, tout le monde a sorti les calculettes ce soir, savoir avec combien de voix il va faire passer son texte d'investiture. Alors, simplement, retour sur ce que l'on sait, à savoir que c'est annoncé, le feront-ils ? Tous les frondeurs du Parti Socialiste ont décidé de s'abstenir dans le vote. Alors c'est dénoncé à la fois par la majorité du PS qui voit une trahison, et ça a été dénoncé aussi, ou plutôt mis devant l'inutilité de ce type de vote par les gens du Front de Gauche réunis hier et avant-hier dans sur les stands de la fête de l'humanité. Une réunion d'ailleurs où il y avait avec les trois composantes du Front de Gauche, il y avait aussi des représentants des Verts et aussi des représentants de ces frondeurs. Et pour le Front de Gauche, s'abstenir, ça n'a pas de sens. Il faut voter contre, d'abord sur le fond, parce qu'effectivement c'est une politique rétrograde et conservatrice, il faut y mettre un frein, et sur la forme en plus, ça n'apporte aucune clarification dans le débat politique, puisque finalement ça permettra sans doute à Valls de rester simplement le patron du gouvernement. Il y avait donc aussi les Verts qui, semble-t-il, vont s'abstenir. J'ai lu ce soir, ils sont trois, hein, ça pèse pas lourd, mais c'est peut-être des symboles forts, finalement. Les trois chevènementistes vont voter contre, avec l'ensemble du Front de Gauche, mais le Front de Gauche, c'est pour l'essentiel des élus du Parti communiste. Voilà, et on peut faire le point. On a compris que au dernier moment, Hollande, Valls ont tenté de raccrocher quelques voix, notamment en revenant sur ce refus d'améliorer la situation des retraités les moins bien nantis, puisque finalement on va leur donner quand même quelque chose à ces moins bien nantis, renversement donc de l'annonce faite il y a 2-3 jours. On a compris que dans une grande réunion aujourd'hui autour de la Banque publique d'investissement finance, hein, c'est ce truc qui avait été créé pour l'investissement et la croissance, on a réuni à Paris des PME, pas les grands du CAC 40, mais dans la coulisse on sait qu'ils sont pas loin, les PME et aussi ce qu'on appelle les ETI maintenant, c'est une couche intermédiaire entre les PME et les grandes boîtes, c'est les entreprises de taille moyenne. Voilà, alors entre villes de taille moyenne, c'est donc nouvelle intermédiaire. Pas de taille moyenne, mais intermédiaire, ce qui veut dire la même chose. Donc on les a réunis pour leur faire un grand discours sur maintenant c'est parti, vous voyez, on va investir, vous allez investir, on vous donne de l'argent, hein, c'est un peu comme le CICE, on vous donne de l'argent, vous allez investir, et puis finalement, on va faire redémarrer la croissance. Bon, mais tout ça, ça visiblement qu'un objectif, c'est tenter de récupérer un certain nombre de voix du Parti Socialiste qui se sont mis en refus de soutien. Voilà pour cette actualité politique gauche. Alors, de l'UMA, effectivement, ça a été un grand moment. Bon, faut pas trop se faire d'illusions. La presse a montré abondamment cette tablée où tout le monde était heureux de se retrouver ensemble. Gauche, Front de Gauche, Vert, Frondeur, et puis quelques autres. Semblant créer une alternative, faut pas se faire d'illusions, on n'en est pas là et on en est sûrement encore très loin.
Voilà, il faut dire un mot de la conférence de Hollande, donc jeudi, je ne sais pas ce qu'il a à nous dire, mais une conférence de presse, il a jugé utile de la faire, peut-être pour annoncer 5 euros pour les petites retraites, ça lui fait un sujet suffisant. On dira aussi qu'il y a cette nouvelle loi qui est en train d'être proposée, qui concerne de nouvelles dispositions, on va dire, pour lutter contre le djihadisme. Alors, il y a des choses qui sont déjà un petit peu en place et on veut en rajouter une couche. Entre autres, quand des gens sont estimés susceptibles de vouloir rejoindre les groupes djihadistes, limiter le droit de sortie du pays pendant 6 mois renouvelable indéfiniment, autrement dit on leur prend leurs papiers, leurs passeports et ils doivent rester en France. On peut penser qu'ils trouveront bien le moyen de sortir quand même. Il y a l'idée de bloquer les sites apologistes du djihadisme en France, qui est contestée par certains, à la fois pour des raisons idéologiques, mais aussi pour des raisons pratiques, parce que si on les bloque à un endroit, ils réapparaîtront aussitôt à un autre, et il y aura moyen de contourner ce blocage, donc une mesure qui n'est pas forcément bien reçue par tout le monde.
Oui, c'est une attaque quand même frontale sur les libertés. Hein. Là-dessus, oui. Je crois que, hélas, on est toujours dans ce type de situation.
Oui, ils vont même plus fort dans ce sens-là avec la création, c'est le troisième point, d'un délit d'entreprise individuelle à caractère terroriste, c'est-à-dire qu'il suffirait d'avoir un délit d'intention qui soit approuvé pour que ce soit considéré comme une exaction susceptible d'être punie, quoi. Ça revient à incriminer un mobile et c'est relativement dangereux parce qu'on voit très bien les dérives de ce genre de truc. Aujourd'hui, c'est pour le djihadisme. Si on met en place une telle disposition, demain, ce sera pour autre chose, et puis après-demain encore pour autre chose. On a vu ça avec les textes ADN. Au départ, c'était limité aux criminels sexuels. Maintenant, le moindre voleur de pommes à l'étal a droit à son test ADN. Donc on peut penser qu'un tel délit d'intention, qui n'est pas l'intention en soi, c'est pas encore un acte délictueux, mais ça le deviendrait avec cette loi. Donc il y a pas mal de critiques, même chez les juges et dans le milieu de la justice, contre cette... Et puis le djihad médiatique aussi, enfin, le fait d'ouvrir un site internet vantant les bienfaits et l'appel au djihadisme constituerait en soi un acte terroriste et serait donc redevable des mêmes dispositions qui concernent les actes terroristes. Donc on voit que ça peut très vite aller assez loin, quoi, tout ça. Alors cette loi devrait recueillir dans le contexte, l'ambiance assez perturbée qu'on connaît actuellement avec l'armée, le 2IL, là, devrait trouver un assentiment assez général. On trouvera des gens pour la voter à droite comme à gauche, même s'il y a certaines réticences à droite comme à gauche aussi, mais qui ne seront pas majoritaires. Voilà, commentaire là-dessus, Robert? Non, pas spécialement.
Non, Michel, peut-être, des commentaires.
Commentaire, c'est-à-dire, oui, on voit bien les dangers un peu de cette loi qui est liberticide. Faire l'apologie du terrorisme est une chose, mais dire que la France ou les États-Unis puissent pratiquer une politique de terrorisme d'État, est-ce que c'est faire l'apologie du terrorisme de bas étage, je ne sais pas.
Enfin, on peut vite dériver vers des trucs comme
ça. Très rapidement, donc le souci, il est avant tout, il est à ce niveau-là.
Voilà, on dira un mot aussi du MEDEF qui revient à la charge parce qu'il en a jamais assez. Vous savez, il a les poches qui débordent, mais il va encore en mettre dedans. Et il devait publier aujourd'hui un document de 60 pages, comment relancer la dynamique de l'emploi en France. Alors là, il s'agit de nouveau de créer 1 million d'emplois. Il crée 1 million d'emplois toutes les semaines, si on l'écoute, Gattaz. Mais finalement, avec la semaine chargée qu'il y a pour le gouvernement aujourd'hui, il a décidé de reporter ça à la semaine prochaine. Mais on perd rien pour attendre. Alors, il y a des mauvaises ou des bonnes langues, c'est selon, qui ont quand même sorti quelques-unes des mesures que ce document va réclamer. Suppression de 2 jours fériés, un SMIC dérogatoire transitoire, une vieille lune, la durée de travail des 35 heures à balayer, bien sûr, le travail du dimanche. Rendez-vous compte, ça devrait créer 300 000 emplois, le travail du dimanche. Pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? C'est vraiment ridicule. Et des contrats de projet liés à une mission. Bref, et on notera au passage que mardi dernier, Gattaz était à une réunion avec tous les syndicats. Il n'a pas dit un mot de ce projet qu'il présente 4 jours après. C'est dire l'honnêteté du personnage et les dessous politicards qui dirigent tout ça.
Mais c'est-à-dire qu'il a son homme, son homme qui fait tout le boulot. Hein. C'est Kessler qui est revenu. Kessler, c'est l'idéologue du capitalisme ultralibéral hein, qui voulait en terminer avec tous les acquis du Conseil national de la Résistance, qui était déjà dans l'équipe de Parizeau, mais même Parizeau l'avait mis un peu à l'écart. Mais là, il est revenu en force avec Gattaz, et c'est lui qui pond tout ce texte-là. Kessler, hein, exactement, Kessler, l'ancien Mao reconverti.
Voilà, on dira un mot de Libé. On apprend ce soir que c'est pas 60, mais 90 emplois qui devraient être supprimés dans un journal qui, paraît-il, perd 22 000 euros par jour, je crois, ou peut-être plus. Et l'orientation de Libé devrait se tourner de plus en plus vers Internet, vers un journal numérique, sans qu'on sache comment le financement par ce journal numérique pourrait se faire mieux qu'avec le journal papier. Voilà, on parlera des 1000 vaches une autre fois. Pour le moment, il n'y en a que 500 déjà, mais on peut dire quand même qu'il y a eu des mouvements, en particulier de la Confédération paysanne, pour protester, et puis des Verts, pour protester contre la mise en place de cette industrie agricole de vaches sans pâturage. Alors, il paraît qu'on est vraiment des amateurs, puisqu'aux États-Unis, ils ont des fermes de 30 000 vaches. Et ça fonctionne, paraît-il. Hein, mais... Donc, en France, il y a une résistance et on pense que l'agriculture est une agriculture rurale qui ne doit pas maltraiter les animaux de cette manière-là et également les agriculteurs. Voilà, ce Canu Info se termine. On dira culturellement qu'il y a visite des pauvres chez les riches samedi et dimanche. Hein, c'est les journées du patrimoine. Et comme tous les ans, donc donnez-vous-en à cœur joie, rêvez un court roman et puis retournez à votre triste sort. Place Saturnelle, dimanche 21, il y a Des langues du monde, de 11h à 21h, c'est une rencontre entre toutes les langues qui existe à Lyon et dans le premier arrondissement, entre autres, qui présentent des stands, qui parlent de leurs activités ou qui expliquent comment mieux les connaître ou les rencontrer. Donc un forum qui est plutôt sympathique, même s'il est vrai qu'il est organisé par Financement de l'Union européenne, entre autres, qui bien sûr ont des le ministère de la Culture, la région Rhône-Alpes, la DRAC, enfin tout le monde. C'est un peu quelque chose d'institutionnel, mais on peut tout de même essayer d'en faire quelque chose et d'en tirer quelque chose. Voilà, il est 20h, ce Canu Info se termine. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour un prochain Canu Info et ne quittez pas l'antenne dans quelques minutes, une émission Vendémiaire. Bonsoir.